Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le mondial de football au Qatar face à face Cameroun-Serbie en ce moment. La Serbie mène 2-1. La journée d'hier a été marquée par l'exploit du Maroc et sa victoire 2-0 face à la Belgique. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes, vendredi dernier, regard dans votre édition sur la situation des femmes en Afghanistan, mais aussi en Iran, avec Gisou Jahangiri, vice-présidente de la Fédération internationale des droits humains. Une attaque en Somalie, au moins 4 personnes ont été tuées au cours du siège d'un hôtel de Mogadiscio. Les députés français examinent aujourd'hui le projet de loi anti-squat, un texte contesté par les associations et par la gauche qui dénonce le durcissement des sanctions. L'augmentation à venir du pass Navigo et du ticket de métro en Île-de-France, des hausses de tarifs qui doivent être votées au prochain conseil d'administration des transports franciliens le 7 décembre prochain. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce week-end était Catherine Goliot pour Les Maîtres du Bonheur aux éditions du Cerf, une anthologie qui nous fait découvrir un certain nombre de philosophes, notamment Montaigne, extrait dans votre journal. Le mondial de football au Qatar, face à face Cameroun-Serbie en ce moment, la Serbie qui mène 2-1. À 14h, la Corée du Sud jouera face au Ghana, 17h une rencontre Suisse-Brésil, 20h Portugal-Uruguay. Hier, la Croatie l'a emporté 4-1 face au Canada, match du l'un partout entre l'Espagne et l'Allemagne, défaite du Japon 1-0 face au Costa Rica. Et la journée de hier a été marquée par l'exploit du Maroc et sa victoire 2-0 face à la Belgique, un premier but signé Abdelhamid Sabiri à la 73e minute, puis une vingtaine de minutes plus tard, un second marqué par Zakaria Abouklal. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes, vendredi dernier, regard sur la situation des femmes en Afghanistan. Leurs droits ne cessent de régresser depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021. Entretien avec Gisou Jahangiri, vice-présidente de la Fédération internationale des droits humains. Elle évoquera également au cours de cet entretien le soulèvement populaire en Iran suite à la mort de Mahsa Amini après son arrestation pour un voile jugé mal porté. Gisou Jahangiri.
Quand je vois des cas extrêmes qui frôlent une forme d'apartheid sexuel en Afghanistan, je suis bouche bée. Parce que malgré tout l'effort mondial qui a été fait à travers les lois, à travers la conscientisation de l'opinion publique, à travers le travail quotidien des associations des femmes, des défenseuses et des défenseurs des droits humains, etc. Je reste très choquée par le fait qu'en fait le monde peut tolérer un exemple comme l'Afghanistan où depuis un an, petit à petit, les femmes ont quasiment plus de droits. Même par exemple, j'ai lu, outre le fait que les filles et les femmes sont exclues de l'éducation, l'accès à l'éducation, à beaucoup de métiers, à une vie publique, sociale, normale et économique. J'ai vu par exemple que les femmes désormais n'ont pas le droit d'acheter par exemple des cartes de téléphone. C'est-à-dire petit à petit, elles vont revenir à l'état dans lequel elles étaient dans le précédent expérience avec les talibans. Ça, c'est quelque chose qui me choque. Et visiblement, la question du traitement des femmes et l'inégalité, la violence faite aux femmes ne constitue pas une ligne rouge dans la politique mondiale. Ça, c'est un aspect de la chose qui me préoccupe beaucoup.
Certaines de ces femmes qui tentent de faire entendre leur voix avec une manifestation brève la semaine dernière à Kaboul, elles ont le courage de faire part de leurs conditions.
Absolument, elles manifestent dans cet espoir parce qu'elles pensent que le monde les regarde aussi. Les manifestations, ce n'est pas tant pour faire changer la politique des talibans. Or, leur politique repose sur cette séquestration. Ils ne peuvent pas changer de politique. C'est leur vision, leur façon de gérer qui fait que des femmes doivent, par définition, comme les minorités aussi, être exclues du sphère public. Je pense que les femmes afghanes, courageuses, comme vous dites, et depuis un an, on a eu une série de manifestations. Des femmes ont été arrêtées, il y a des femmes qui ont disparu. Espère que leur voix serait entendue par le monde. Je ne sais pas si ça va se traduire par un effort international pour les entendre et pour ne pas, par exemple, reconnaître les talibans comme le gouvernement officiel de ce pays, parce que cet apartheid est impossible à regarder, à vivre. De l'autre côté, quand je regarde le courage des jeunes femmes, des filles, des femmes d'Iran, qui, après 44 ans d'un régime qui a été, toute la répression politique, a instauré tout un système de ségrégation à l'encontre des femmes, je les trouve admiratives et courageuses, et j'espère que leur voix va être entendue et qu'on arriverait à un Iran démocratique. Ce qui a été étonnant, je pense, depuis plusieurs mois, c'était l'accompagnement de la solidarité des hommes aussi en Iran. Donc, si vous voulez, c'est des revendications très modernes. N'oublions pas que 75% de la population iranienne vit en ville, que les filles et les jeunes femmes continuent à constituer 65% dans tous les domaines à l'université. Les étudiants sont des étudiantes, la majorité sont des femmes. Et donc, elles ont des revendications absolument modernes concernant leur liberté et puis leurs droits démocratiques, économiques, sociaux, politiques et culturels.
Ces manifestations qui sont violemment réprimées, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé jeudi dernier d'ouvrir une enquête internationale pour rassembler des preuves des violations et éventuellement poursuivre les responsables. Vous êtes satisfaite de cette décision ?
Absolument, je pense que c'est nécessaire, dans le sens où déjà la première revendication était la mort de Mahsa, alors qu'elle a été arrêtée parce qu'elle avait mal porté son voile. Mais aussi évidemment, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'arrestations, malheureusement quelques centaines de morts aussi, y compris des enfants. Donc il faudrait que ça s'arrête évidemment. Mais alors, comment est-ce que la société iranienne va pouvoir négocier avec le régime en place? Est-ce que ça va devenir une révolution, on va dire, plus nationale, sachant que dans différentes régions d'Iran, les mêmes revendications sont chantées, scantées dans les rues Donc, je ne sais pas ce que l'avenir va nous réserver, mais en tout cas, ça, c'est un exemple, justement, d'un mouvement des femmes. Si vous voulez, moi, en tant qu'Iranienne, le fait que les femmes iraniennes soient revendicatives et fortes ne m'impressionne pas, dans le sens où je sais que des femmes iraniennes, comme d'autres femmes ailleurs, sont aussi fortes. Ce sont des citoyennes avec des demandes très claires. Mais en tout cas, elles ont pris un peu le leadership de ce mouvement social qui, cette fois-ci, se distingue des autres mouvements où c'est vraiment sans intermédiaire le peuple qui part.
Vous avez évoqué au début de cet entretien le sort des femmes afghanes. Il existe d'ailleurs une solidarité aujourd'hui entre les femmes afghanes et les femmes iraniennes. Et cela s'est traduit lors de rassemblements?
Oui, ça s'est traduit à la fois en Afghanistan, un peu en Iran même auparavant, mais aussi dans les diasporas des deux pays. Il y a un dialogue. Je pense que les femmes afghanes sont un peu déçues, en tout cas se sentent très isolées quand ils voient que partout dans le monde, il y a des manifestations en faveur de la liberté en Iran, que les artistes se sont aussi mobilisés. Elles auraient bien voulu la même réaction internationale envers leur propre sort.
La mobilisation internationale n'est pas suffisamment importante, c'est vraiment le message que vous entendez délivrer.
Oui, mais aussi, regardez, il y a des pays comme la France et quelques d'autres pays en Europe du Nord qui considèrent qu'ils mènent une politique étrangère féministe. Bah, à nous de regarder, continuer à observer pour voir comment ça se décline réellement. Parce que quand nous regardons que, par exemple, la France continue à être un vendeur d'armes à l'Arabie Saoudite où la situation des femmes est tel que nous connaissons. Les États-Unis ont accepté de faire un deal avec les talibans pour grosso modo leur donner le pouvoir. Voilà, donc à nous de voir, la solidarité entre les citoyens du monde est réelle. On le voit, on le constate. Mais est-ce que ça se traduit par la politique des pays puissants qui sont aussi présents dans beaucoup de régions du monde, j'en suis pas certaine.
Guissou Jahangiri, vice-présidente de la Fédération internationale des droits humains. Une attaque en Somalie, au moins 4 personnes ont été tuées au cours du siège d'un hôtel de Mogadiscio, hôtel occupé depuis hier soir par des djihadistes Shebab, un lieu très fréquenté par des hauts fonctionnaires et des parlementaires. Il est situé près des bureaux du président Hassan Sheikh Mohamud. Selon l'ONU, au moins 613 civils ont déjà été tués et 948 blessés dans des violences cette année en Somalie. Des violences principalement causées par des engins explosifs artisanaux attribués au Shebab. En Tunisie, le Front du Salut National, une coalition de l'opposition, appelle à la formation d'un gouvernement de salut national pour faire face aux problèmes économiques et sociaux du pays. Son chef, Ahmed Nejib Chebbi, estime que les crises économiques et sociales s'aggravent de jour en jour et que depuis un an et demi, dit-il, aucun signe ne laisse présager la fin de ces problèmes. C'est aujourd'hui la journée de la Méditerranée, événement créé par l'Union pour la Méditerranée qui regroupe 42 pays. Il s'agit de mettre en lumière la richesse et la diversité culturelle des pays du bassin méditerranéen, mais aussi de renforcer les liens entre les deux rives unies par cette mer. Les tarifs des transports franciliens devraient augmenter en janvier prochain. Le pass Navigo est actuellement de 75,20 € et dans une lettre datée du 25 novembre, la présidente de l'autorité régionale des transports Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, évoque la possibilité d'une hausse du pass Navigo à 90 € face, selon elle, au blocage du gouvernement. Le prix du ticket de métro à l'unité pourrait atteindre 2,30 €, d'après un document d'Île-de-France Mobilité. Ces hausses de tarifs doivent être votées au prochain conseil d'administration des transports franciliens. Ce sera le 7 décembre. Les députés examinent aujourd'hui un projet de loi anti-squat, un texte contesté par les associations et par la gauche qui dénonce le durcissement des sanctions. La proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite entend mieux réprimer le squat du logement. Selon le rapport sur cette proposition, la majorité dit vouloir protéger les petits propriétaires victimes de squatteurs ou de multiples années d'impayés. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient le week-end dernier était Catherine Goliot pour Les Maîtres du Bonheur aux éditions du Cerf, une anthologie qui nous fait découvrir un certain nombre de philosophes, dont Montaigne, extrait de cette émission.
Il y a Le Secret de Montaigne, qui est quand même un auteur que je recommande à tous les lecteurs, parce que c'est une merveille, une pure merveille. Il est goulayant, c'est-à-dire qu'il vous donne la joie. Déjà, de le lire, c'est une joie. Mais ce qui traverse toute l'œuvre de Montaigne, c'est l'amour de la vie. C'est un homme qui, personnellement, je trouve absolument exceptionnel, parce qu'il a vécu pendant les guerres de religion, il a été confronté à la maladie, à l'épidémie. Il a pris énormément de responsabilités puisqu'il a été le maire de Bordeaux. Mais il a aussi été un négociateur pour le roi auprès des protestants et des catholiques. Ça s'est d'ailleurs pas très bien passé. C'était un homme extrêmement cultivé qui avait beaucoup lu. Et c'est quelqu'un qui sait se composer une vie où il y a à la fois l'amour de l'étude, une grande empathie avec les autres, l'amour du corps, une grande liberté. Et le texte que j'ai choisi, c'est un texte donc qu'il écrit à la fin de sa vie, où il est très malade. Il est très malade, il souffre beaucoup. Il dit, mais malgré tout ça, j'aime la vie. Et je crois que c'est l'une des leçons plus belles que nous aient laissées ces sages ou ces penseurs ou ces poètes, ces artistes qui sont présents dans ce livre. C'est, on peut tout imaginer pour le bonheur, mais il faut quand même avoir en tête que la vie, elle est là. Alors évidemment, il y a le vieil adage, mais parfois il faut respecter les adages qui est la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Montaigne nous montre que cette vie, il faut la sentir à toutes les minutes, il faut l'apprécier. Parfois, il faut effectivement la supporter. Mais le bonheur, c'est peut-être cette leçon-là, c'est-à-dire être capable de ressentir le plaisir d'être dans la nature, dans une forêt, le plaisir de la marche, le plaisir de lui monter à cheval, le plaisir d'une cavalcade, le plaisir de discuter avec des amis, le plaisir d'aimer, le plaisir d'être avec des amis. Bon, vous connaissez tous ce texte magnifique sur la Boétie, où il dit, mais pourquoi est-ce que je l'aimais, lui, parce que c'était lui et parce que c'était moi. Mais c'est surtout parce qu'il avait entre eux une capacité de communication qu'ils ont travaillé. Ça n'a pas été donné. Ils ont travaillé cette capacité de communication, d'échange, d'amitié. Mais c'est ça aussi qui faisait son bonheur. Mais malgré ça, malgré la perte de cet ami, malgré tous les morts qu'il a pu voir, malgré toutes les souffrances qu'il a endurées, il a dit « j'aime la vie ». Et c'est en cela que je trouve qu'il est absolument fondamental.
Catherine Goliot, il y a peu de femmes dans votre ouvrage, puisque les femmes sont de toute façon peu nombreuses parmi les philosophes avant le 19e et le 20e siècle, mais vous nous donnez à lire un texte d'Émilie du Châtelet, qui était non seulement philosophe, mais aussi scientifique. On sait que Voltaire, son compagnon, l'admirait. La définition du bonheur pour elle, c'était l'amour.
Pour Émilie du Châtelet, c'est plus que l'amour. Le bonheur, c'est la passion. C'est ce sentiment que vous êtes vivant. Et pour elle, ce sentiment d'être vivante, elle le ressentait évidemment dans l'étude, et elle le dit dans ce texte. Elle aime l'étude, elle aime la connaissance, elle a une vraie libido de la connaissance et de la découverte. Mais la passion, sentir qu'elle aime, plus que d'être aimée, c'est sentir qu'elle aime. C'est absolument extraordinaire, et c'est le piment de la vie, et c'est ce qu'elle recommande. Et elle dit, en gros, oui, c'est formidable d'être très heureux, que tout aille bien, que l'homme qui vous aime ou que vous aimez vous aime, bref, tout va bien, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie? Qu'est-ce qu'on s'ennuie, en fait? Ça n'a pas de piment. Et alors, ce texte est passionnant à plusieurs titres. Le premier d'abord, c'est qu'elle va à l'encontre d'une tradition de la définition du bonheur venue des stoïciens et notamment de Cicéron, qui est aussi présent dans ce livre et qui parle justement du bonheur comme « si vous voulez être heureux, rejetez les passions, protégez-vous, protégez vos sentiments, parce que vous allez vous exposer à la souffrance ». Et ça, c'est une tradition très très forte dans la manière de concevoir le bonheur. Elle, cette femme, elle dit « non, non, c'est exactement le contraire, exposez-vous, acceptez d'avoir mal, mais le ressenti que vous allez avoir est tellement extraordinaire, vous serez tellement vivant que c'est comme ça que vous allez être heureux. Acceptez la tempête, recherchez la tempête ». Donc ça, c'est quand même en soi extraordinaire. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'elle ose le dire, comme vous l'avez très bien dit, il n'y a pas beaucoup de femmes ont la possibilité d'écrire, de s'exprimer jusqu'à la fin du 18e, 19e siècle. Elle, c'est une intellectuelle d'un niveau exceptionnel. Elle est celle qui a introduit Newton en France. Elle est celle qui l'a traduit et dont Voltaire avait travaillé avec elle, mais c'est elle qui était capable de lire et de comprendre les mathématiques et donc qui a fait cet énorme travail. Elle ose donc le dire, donc elle prend un risque énorme, de même qu'elle avait pris un risque en s'affichant avec Voltaire alors qu'elle était mariée. Et donc, à ce titre-là, je trouve que c'est une des premières féministes sans l'être, c'est-à-dire qu'elle ne se revendique pas du tout comme féministe, mais elle ose vivre sa passion et vivre sa passion au grand jour et donc s'affirmer en tant que femme dans le monde littéraire. Et ça, c'est exceptionnel. C'est absolument exceptionnel. Et en cela, c'est un être absolument remarquable.
Catherine Goliot, elle était l'invitée de la Bibliothèque de Radio Orient le week-end dernier pour Les Maîtres du Bonheur aux éditions du Cerf, émission présentée par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Francis Poézévara, coordinateur national adjoint de Génération, conseiller municipal à Puteaux, émission présentée par Loïc Barrière. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash en langue française et à 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h19.